France Culture. La science CQFD, Natacha Trioux.
C'est l'année internationale et le centenaire de la physique quantique. On vous a donc préparé une collection de podcasts. Aujourd'hui, premier épisode avec l'un de ses pairs, ils sont nombreux, un prince qui a fait vibrer les atomes, Louis de Broglie. En 1929, ce savant aristocrate de formation littéraire reçoit à seulement 37 ans le prix Nobel de physique pour sa découverte sur la nature microscopique de la matière. 5 ans plus tôt, sa soutenance de thèse est une révolution dans le monde des sciences. Une révolution qui se fait encore sentir. Louis de Broglie découvre que la matière est à la fois une onde et une particule. Il écrit que toutes les choses peuvent exister de deux manières et que rien n'est aussi solide qu'il le semble. Par la suite, il permet le développement de la mécanique quantique. Louis de Broglie, électron libre de la physique quantique. Alain Le Ril, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de physique en classe préparatoire aux grandes écoles, au lycée Saint-Louis, et l'auteur du roman historique « L'onde et la particule, le cas Louis DB » aux éditions Complicité en 2023. Et nous sommes en ligne avec Olivier Darigol, bonjour.
Bonjour, madame.
Vous êtes historien des sciences au sein de l'unité Sphère, sciences, philosophie, histoire du CNRS. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure en podcast. N'hésitez pas à vous abonner sur notre fil podcast sur l'appli Radio France. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Blue Sky. Tous les jours, nous postons pour vous toutes nos sources. C'est sur notre compte @sciencesCQFD. Alors, comment Louis de Broglie a-t-il influencé le développement de la physique au XXe siècle, dans ses théories, dans ses institutions et dans ses applications? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. On commence par écouter sa voix avec notre archive du jour. En 1949, Louis de Broglie regarde dans le rétroviseur et plante le contexte historique.
Je vous répondrai d'abord que je suis avant tout un savant consacré à mes travaux et que par conséquent, dans ce demi-siècle que j'ai vécu, ce qui m'a beaucoup frappé, ce sont les grands événements scientifiques. C'est en effet un demi-siècle qui a été très important au point de vue du développement de la science et où des découvertes capitales ont été faites, notamment en physique, qui est la science dont je m'occupe. Dès 1900, Planck découvrait les quantas. En 1905, Einstein découvrait la relativité et une nouvelle théorie de la lumière. En 1913, Bohr trouvait sa théorie atomique. Ce sont là des dates extrêmement importantes dans l'histoire intellectuelle de l'humanité. Et après la guerre de 1914, je me suis mis moi-même à travailler. À ce moment-là, il y a eu un développement extrêmement rapide de ce qu'on appelle actuellement la mécanique quantique. J'y ai pris moi-même une part très importante. Et je, à ce point de vue, j'ai des souvenirs qui certainement restent dans ma mémoire d'une façon qui ne peut pas s'effacer. Seulement, évidemment, ce sont des souvenirs d'une nature un peu particulière. Et cette manière de jeter des dates dans la première moitié du 19e siècle, en évoquant seulement des événements scientifiques, est peut-être un peu particulière à un savant.
Voilà la voix de Louis de Broglie dans l'émission Les Enfants du siècle, diffusée en 1949 sur la RDF. Il évoque ce demi-siècle dans lequel il a vécu. Alain Le Ril, quel était justement un peu plus précisément ce contexte scientifique en cette fin de 19e et en début de 20e siècle?
Alors, à la fin du 19e siècle, on pensait que la quasi-totalité de ce qui était à découvrir était découvert. Et badaboum, au début du 20e siècle, tout tombe un petit peu à l'eau. À partir de Planck en 1900, comme l'a rappelé Louis de Broglie, c'est très, très touchant d'ailleurs d'entendre sa voix. Et puis en 1905, avec Einstein qui reprend l'hypothèse des quantas de Planck pour proposer une vision corpusculaire de la lumière, alors que depuis plus d'un siècle, on pensait que la lumière était une onde et simplement une onde. Et puis, bon, la vision de Bohr de l'atome, son modèle en 1913, auquel fait référence aussi de Broglie, permet de commencer à comprendre comment la lumière interagit avec la matière. Malgré tout, jusqu'à 1925-1926, on a des éléments, des découvertes de ces trois grands physiciens qui ne prennent pas vraiment sens. C'est-à-dire que je pense que c'est Louis de Broglie le premier qui donnera un sens à ces trois avancées.
On reviendra en effet sur les raisons pour lesquelles la physique est dans l'impasse à ce moment-là. Mais votre écoute des paroles de Louis de Broglie, vous aussi Alain Le Ril. Olivier Darigol, pardon, excusez-moi, je m'embrouille les pinceaux.
Oui, non, moi je pense que vous avez très bien résumé la situation. La seule chose que j'ajouterais, en fait, c'est que on est dans une période où on voit pas du tout clair. Enfin, au moment des quantas de Planck, quand Planck introduit les premiers quantas, qu'est-ce que c'est que la signification de ces quantas? C'est pas clair du tout. Et bon, les choses se stabilisent donc à partir de vers 1911, par là un peu, on commence à avoir un consensus autour de ça, mais avant c'est très discuté. Et on a aussi le même situation, enfin de débat et de conflit pour les et même aggravé, disons à partir des quantas d'Einstein, les quantas lumineux, parce que alors ça c'est très important pour la suite de l'histoire et pour l'intervention de Louis de Broglie. Il faut savoir que jusqu'en 1923-24, presque personne n'admettait les quantas lumineux d'Einstein. C'était considéré comme une notion vraiment, une idée sauvage qui n'avait pas sa place dans la physique. Et Einstein lui-même, à partir de certains moments, avait des doutes lui-même. Il est revenu après aux quantas lumineux, mais il y a eu une période de doute. Donc vous voyez qu'on est, dans une situation où tout est encore en flux et discuté. On a des tentatives très audacieuses comme celle d'Einstein, mais ça passe mal, quoi. Voilà. La physique de l'époque.
Voilà pour le contexte historique de la physique de l'époque. Le personnage maintenant, Louis-Victor Pierre-Raymond de Broglie, est né le 15 août 1892. Il est mort le 19 mars 1987. Il est prince, puis 7e duc de Broglie. C'est le plus jeune de 5 enfants. Est-ce qu'on a une idée de comment s'est déroulée justement son enfance, Alain Leril?
Alors, il a été élevé dans différentes grandes maisons. À Dieppe, il est né, mais il a aussi vécu dans le château de Broglie, qui est le fief familial de la famille de Broglie, qui se prononce de Broglie parce qu'elle est d'origine italienne, donc le GLI fait lieu à la place de Broglie. Et dans ce château, il a l'air d'être comme le dernier enfant de la fratrie, très choyé en particulier par ses grandes sœurs. Et puis autour de lui, il y a ce grand frère, Maurice de Broglie, très exactement Louis César Victor Maurice de Broglie, qui est la figure tutélaire pour Louis et tout au long de sa vie. C'est une famille qui est particulièrement célèbre, qui a des ancêtres maréchaux de France, qui a des ancêtres diplomates, qui a des ancêtres qui sont des grands politiciens. Le grand-père de Broglie lui-même a été chef du gouvernement. Son arrière-grand-mère est Madame de Staël. Bon, voilà. Et Maurice de Broglie est le premier grand scientifique dans la famille, et Maurice exercera une impression très forte sur Louis toute sa vie.
Le premier grand scientifique de la famille, qui devient d'ailleurs scientifique contre la volonté du père, Olivier d'Arigol. Maurice de Broglie, qui a 17 ans de plus que Louis, a été quand même une influence majeure pour son frère, Louis de Broglie. C'est peut-être même lui qui le plonge dans la physique.
Oui, c'est certainement vrai, au moins en bonne partie, et d'autant que le père de Louis de Broglie est décédé quand de Broglie était encore un adolescent, et c'est vraiment Maurice qui a pris en charge son éducation. Et il y a eu par exemple l'occasion d'assister Louis de Broglie avec son frère, qui était secrétaire du premier congrès Solvay, le premier grand congrès de physique où l'on discute les nouveaux quantas. Donc c'est quelque chose, bon, de Broglie dit lui-même que ça a été un événement décisif un peu dans sa conversion aux sciences physiques, puisqu'auparavant, comme ça vient de le rappeler, il était plutôt destiné à une carrière diplomatique ou à faire des études d'histoire, en fait. Donc il a vraiment changé, quoi, de sa direction.
En effet, quand il lit les premiers échanges du premier congrès Solvay en 1911, il raconte « Mon esprit fut ébloui par la beauté de la science pure, de celle qui cherche la vérité sans se soucier particulièrement des applications. » Et hop, gros changement de vie, il s'inscrit à la faculté des sciences de Paris et obtient sa licence en 2 ans. Et là, à ce moment-là, Alain Leril, il s'intéresse aussi aux travaux de laboratoire de son frère Maurice.
Tout à fait, parce que Maurice a créé un laboratoire de recherche scientifique privée dans un appartement de sa propre belle-mère. Et il se trouve que après la Première Guerre mondiale, où Louis de Broglie poursuit quelque part ses études scientifiques, puisqu'il sera dans l'équipe du colonel Ferrier pour la radiodiffusion, et donc à côté de la Tour Eiffel en particulier pendant plusieurs années, eh bien Louis de Broglie décide de faire une thèse de physique, et il va tous les jours au laboratoire de son frère Maurice Bon, si j'ai bien compris, il dit bonjour à tout le monde, il va s'enfermer dans une pièce et il travaille de façon théorique et pas expérimentale, alors qu'il y avait de grands expérimentateurs dans le laboratoire de son frère.
C'est ça, c'est que Olivier Darigol, Louis Debray va côtoyer quotidiennement le laboratoire de son frère et donc il observe tous les jours l'aspect dual des rayons X.
Oui, oui, alors c'est très important. Hein. Donc, alors il est vraiment en fait un peu ce qu'on appelle en anglais aujourd'hui, on parle de house theoretician, c'est le théoricien de laboratoire, le théoricien maison qui sert à interpréter les expériences qu'on fait dans le laboratoire. Et en l'occurrence, dans le cadre de la nouvelle théorie quantique, la théorie de Bohr, il s'agit d'expliquer en fait tous ces phénomènes de rayons X qui sont observés dans le laboratoire. Donc c'est quelque chose qui est très important parce qu'il se trouve que dans le domaine des rayons X, l'aspect corpusculaire du rayonnement est plus évident que pour la lumière ordinaire. On sait que les rayons X, c'est de la lumière, en fait, on savait, déjà de très haute fréquence. Donc, c'est une lumière très spéciale. Et en fait, les expérimentateurs, les spécialistes rayons X, ils voyaient bien qu'il y avait certaines expériences dans le laboratoire où on avait qui s'interprétaient beaucoup mieux en admettant qu'on n'avait pas des ondes, mais des corpuscules. Alors, ce qui fait que les quelques rares physiciens, en fait, qui prenaient au sérieux les quanta lumineux d'Einstein, l'idée de quanta de rayonnement, c'était les spécialistes des rayons X, et c'était particulièrement vrai pour Maurice de Broglie et les gens qui travaillaient dans son laboratoire. Dans son laboratoire, en fait, c'est même dans son laboratoire qu'on a eu vraiment les premières expériences décisives en faveur des quanta lumineux d'Einstein. Les expériences de Millikan, dont on a beaucoup parlé, qui étaient dans le domaine lumineux, avec la lumière ultraviolette, en fait, n'était pas décisive, contrairement à ce que Millikan a raconté lui-même plus tard. Et en fait, Millikan lui-même n'était pas tout convaincu, c'était un ennemi des quanta lumineux, même après ses expériences, vous voyez. Et donc, le rôle des expériences de Maurice de Broglie, et puis d'autres personnes plus tard, comme Arthur Compton, l'effet Compton, dont vous avez peut-être entendu parler, dans le domaine des rayons X, ont été cruciales. Et le fait que le jeune Louis de Broglie soit immergé dans cette physique des rayonnements X, où on voit apparaître le rôle corpusculaire de la radiation, c'est quelque chose de très important, parce que Louis de Broglie est l'un des premiers théoriciens qui prend vraiment au sérieux les quanta lumineux d'Einstein, en dehors d'Einstein lui-même.
Et justement, un très jeune Louis de Broglie va se pencher sur les problèmes de la physique de son époque. Il reprend d'Einstein cette idée de double nature de la lumière, à la fois ondulatoire et granulaire. Il va l'étendre à la matière. Comment va-t-il résoudre cette contradiction fondamentale entre ondes et particules ? On y vient après cette opérette qui chante ses louanges.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
Une opérette pépite qui chante l'histoire de Louis de Broglie en direct sur France Culture. Nous sommes avec Olivier Darigol et Alain Leril et on revient sur le parcours de ce physicien qui a permis le développement de la mécanique quantique. On vient de voir comment ce physicien a été justement influencé par la physique des rayonnements, des rayons X, par Planck et Einstein avec la notion des quantas et des grains de lumière qui ont modifié déjà complètement la représentation physique du monde. On va arriver à sa thèse qui a marqué l'histoire des sciences, mais avant ça, il faut parler, Olivier Darigol, hein, des trois articles qu'il publie dès 1923 dans les comptes rendus de l'Académie des sciences. Il y a déjà l'essentiel de ses idées.
Oui, oui, effectivement. Alors, le point de départ, hein, c'est qu'il voulait mieux comprendre, en fait, consolider la théorie des quanta lumineux et d'Einstein, donc ce qu'on appelle aujourd'hui les photons. Et il s'imaginait donc, comme Einstein d'ailleurs, enfin, mais encore plus qu'Einstein, une analogie très forte donc, entre les quanta lumineux et des corpuscules de matière. Et donc, pour même renforcer cette analogie, Louis de Broglie va penser que les quanta lumineux doivent avoir une masse, alors que chez Einstein, ils étaient de masse nulle. Hein, mais il va imaginer que, bon, ce sera plus, on pourra traiter de façon plus similaire à la matière, donc ces corpuscules lumineux, si on leur donne une petite masse. Certes, il ne faut pas qu'elle soit trop grosse, hein, sinon ça ne marche plus, mais avec une toute petite masse, ils pensaient que c'était, les choses étaient plus jolies, plus formellement, que la théorie marchait mieux à plusieurs égards. Et après, je pense que ce qu'il s'est dit, bon, maintenant, il a réussi, ça aussi c'est un autre point très important, c'est qu'il a réussi, dans le cadre des quantas lumineux, donc à associer un corpuscule avec masse, des quantas lumineux avec masse, à une onde. Alors, il a un formalisme pour ça, si vous voulez, mais il le fait, ce qui est essentiel, ce qu'il le fait dans un cadre de la théorie de la relativité d'Einstein. C'est l'autre grand aspect de l'œuvre d'Einstein. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on peut associer une onde à un corpuscule, et réciproquement, on peut associer un corpuscule à une onde avec des formules qui permettent de passer de notions corpusculaires comme une fréquence à une notion, d'une fonction ondulatoire comme une fréquence à une notion corpusculaire comme une énergie. Et on peut le faire, en fait, de manière tout à fait conforme à la théorie de la relativité. Alors, c'est ça, en fait, qui rend cette association entre les corpuscules quelque chose d'assez riche, de très contraint par la théorie de la relativité. Et à partir de là, bon, il savait le faire pour des quanta lumineux, Einstein, mais un quanta lumineux avec une masse, ce n'est pas très différent d'un électron qui a aussi une masse. Donc, il s'est dit, pourquoi ne pas étendre, en fait, cette association, cette dualité, si vous voulez, entre ondes et corpuscules, pourquoi ne pas l'étendre à la matière? Alors, c'est très audacieux, mais c'était suggéré par le fait qu'il en était déjà, si vous voulez, une masse pour les quanta lumineux.
Alain Leril?
Oui, alors, en fait, la dualité onde-corpuscule apparaît dans le cadre de la lumière dès 1905 avec Einstein, et comme l'a dit Olivier Darigol, c'est pas si évident que ça, même pour Einstein. On peut d'ailleurs citer sa phrase, Einstein disait que même si la bière était vendue en bouteille d'une pinte, ça voulait pas dire pour autant que la bière était formée de pintes. Donc voilà, ces quantas n'étaient pas une évidence pour tout le monde, d'autant que jusqu'en 1922-1923, la communauté s'oppose à l'abandon, en fait, de la vision ondulatoire qui marchait si bien depuis Fresnel et 1819. S'il y a une dualité onde-corpuscule dans le cas de la lumière, elle n'est pas admise par toute la communauté, plus facilement par De Broglie. Et ce qui est très audacieux, c'est qu'il va en plus développer cette dualité et l'étendre jusqu'à la matière. Olivier Darigol nous a expliqué en quoi la masse du photon, pour lui, pouvait être un déclencheur.
Il soutient sa thèse le 25 novembre 1924, grâce à l'appui d'Einstein. Il la soutient d'ailleurs devant Jean Perrin, président du jury et futur prix Nobel de physique en 1926. Quelles sont les idées de Louis Le Broglie dans cette thèse? Eh bien, il vous raconte. Pendant plus d'un siècle, nous avons divisé les phénomènes du monde en deux camps. Les atomes et les particules de la matière solide et les ondes immatérielles de la lumière qui se propagent dans un océan d'éther luminifère. Mais ces deux systèmes ne peuvent pas rester séparés. Nous devons les lier en une seule théorie qui explique leurs multiples échanges. Le premier pas a été fait par notre collègue Albert Einstein. Il y a déjà 20 ans, il postula que la lumière n'était pas seulement une onde, mais qu'elle contenait des particules d'énergie, ces photons, qui ne sont que de l'énergie concentrée, voyagent sur les vagues de la lumière. Beaucoup ont douté de la véracité de cette idée. D'autres ont voulu fermer les yeux pour ne pas voir le nouveau chemin qu'il nous montre. Car nous ne devrons pas nous tromper. Il s'agit d'une véritable révolution. Nous sommes en train de parler de l'objet le plus précieux de la physique, la lumière. La lumière qui non seulement nous permet de voir les formes de ce monde-ci, mais qui nous montre les étoiles qui ornent les bras spiraux de la galaxie et le cours caché des choses. Mais cet objet n'est pas singulier, il est double. La lumière existe de deux manières distinctes, en tant qu'onde et particule. La lumière a deux régimes et a des identités aussi opposées que les visages de Janus à deux têtes. Ceux qui s'opposent à cette révélation arguent que cette nouvelle orthodoxie implique de s'écarter de la raison. À ces derniers, je dis ceci. Toute la matière possède cette dualité. Ce n'est pas la seule lumière qui est atteinte de ce dédoublement, mais chacun des atomes avec lesquels la divinité a construit l'univers. La thèse que vous avez entre les mains montre que pour chaque particule de matière, que ce soit un électron ou un proton, il existe une onde associée qui la transporte à travers l'espace. Je sais que beaucoup douteront de mes raisonnements, j'avoue que je les ai bâtis dans la solitude. Voilà un extrait de la thèse de Louis de Broglie que l'on peut retrouver dans l'excellent ouvrage « Les maîtres de l'atome » de Tobias Hörter aux éditions Les Arènes. Olivier Darigol, beaucoup douteront de mes idées, écrit-il. Comment ces idées sont-elles accueillies ?
Ah oui, alors, pendant son comité de thèse,
oui.
Je veux dire, avec un certain scepticisme quand même. Alors, je pense que Langevin, qui était le directeur de thèse, était le meilleur spécialiste en France de théorie de relativité, mais aussi de physique quantique. Donc, il était capable, Langevin, d'apprécier la beauté formelle du travail de Louis de Broglie. Et il y a un certain nombre de succès dans cette thèse, comme il y a une dérivation très fameuse des conditions de quantification qui permettent de déterminer les niveaux des atomes dans la théorie de Bohr. Il le fait à partir de conditions sur des ondes d'électrons à l'intérieur de l'atome, une condition de stationarité. Et donc, il y a toutes sortes de très jolis résultats. Donc, il retrouve, mais à un niveau plus fondamental, des résultats de l'ancienne théorie quantique qui existait avant lui. Et puis surtout, il y a cette manière très jolie d'harmoniser la théorie de la relativité et la physique quantique dans ce travail. Et ça, c'est quelque chose que je pense que Langevin appréciait, et aussi une partie des membres du jury. Mais on pouvait se demander effectivement si tout cela avait un quelconque rapport avec la réalité ou si c'était une spéculation formelle très jolie, mais qui peut-être s'écartait quand même de la vérité. Et je crois me souvenir qu'il y a un membre du jury de la thèse qui a posé la question du roi, mais finalement, est-ce que ça a des prédictions expérimentales ? Et c'est à ce moment-là qu'il a proposé l'idée qu'on pourrait peut-être diffracter un faisceau d'électrons. C'est d'ailleurs une proposition qu'il avait déjà faite dans un de ses articles dans les comptes rendus en 1923, mais pas prudemment, pas reprise dans la thèse. Il était quand même prudent, parce que c'était particulièrement audacieux de dire qu'il pouvait y avoir des phénomènes vraiment typiquement ondulatoires, qu'on pouvait faire ça avec des faisceaux d'électrons. Donc voilà, donc le jury de thèse, c'est bien pour ça que Langevin envoie une copie de la thèse à son ami Einstein pour lui demander son avis, parce que quand même, il n'est pas très sûr de la valeur réelle de ce travail, en tout cas de sa valeur de vérité. Et vous connaissez, certainement vous, la fameuse réponse d'Einstein, hein, il a soulevé un coin du grand voile. Donc Einstein était extrêmement impressionné et il a des raisons particulières de le faire parce qu'il se trouve que ces ondes de Louis de Broglie, ça permet de comprendre une théorie à laquelle il travaille même à l'époque, je ne peux pas en détail.
En effet, Einstein est super enthousiaste. Par contre, Jean Perrin, Alain Leril, Jean Perrin reste assez dubitatif lui aussi.
Oui, alors il se trouve que la soutenance de thèse tarde à venir. Hein. Il y a déjà 3 articles auxquels vous avez déjà fait référence qui donnent la substance de sa thèse qui ont déjà été publiées au compte-rendu de l'Académie des sciences. Et le grand frère, encore une fois, Maurice, demande à Jean Perrin ce que pensent les membres du jury de cette thèse avant qu'elle ne soit soutenue. Et Jean Perrin dit « Tout ce que je peux vous dire, c'est que votre frère a l'air d'être très intelligent. » Bon, ce qui veut dire que tout le monde n'est pas totalement convaincu effectivement par cette thèse. Et c'est certainement l'envoi de la lettre d'Einstein avec cette formule qui, Louis de Broglie a soulevé un coin du grand voile et qui déclenche la soutenance.
Parce qu'en effet, Louis de Broglie reprend en effet la fameuse équation d'Einstein, E égale mc2, E est l'énergie de masse d'une particule de masse m, et c'est la vitesse de la lumière dans le vide, et il combine E égale mc2 avec la formule de Planck. Ça permet à Alain Leril de calculer quoi ?
Alors, il double la formule de Planck-Einstein qui relie l'énergie de cette particule à la fréquence de l'onde dont on parlait précédemment, d'une autre formule qui, étonnamment, arrive assez tard dans la thèse, alors même qu'il aurait pu la sortir plus tôt dans la thèse, qui lie ce qu'on appelle la quantité de mouvement, c'est-à-dire le produit de la masse par la vitesse pour un électron en particulier, à la longueur d'onde de l'onde de matière que de Broglie créer dans sa thèse. Voilà. Et à partir de là, il peut en particulier expliquer les fameuses orbites de l'atome de Bohr. Alors, il a une très belle image qu'on peut un petit peu développer. Imaginons donc un électron qui est sur une orbite circulaire qui se déplace autour du noyau de l'atome. Eh bien, si en même temps que le déplacement de cet électron, on a un canal dans lequel on mettrait de l'eau et que cette eau subit une sorte de vague, une onde, et que cette onde se déplace en même temps que l'électron, eh bien, on retrouve les quantifications qui sont prévues par Bohr, tout simplement de la même façon que une onde le long d'une corde de guitare doit vérifier que le double de la longueur de la corde de guitare est égal à un nombre entier de fois la longueur d'onde. Voilà les conditions de quantification qui expliquent enfin le modèle de 1913 de Bohr.
Ça, c'est l'onde de Breuil, c'est cette onde de matière que l'on peut associer à toute particule.
Tout à fait.
Alors, très rapidement, on a des confirmations de sa théorie, une confirmation théorique d'abord, Olivier Darigol, dès 1926 avec Schrödinger.
Oui, c'est une extension même. C'est vraiment construit une théorie à partir de une théorie vraiment cette fois-ci avec une bien plus grande généralité et surtout qui permet de faire des calculs précis. Hein, donc de calculer des atomes, vraiment la structure des atomes. Et évidemment, le point de départ, c'est certainement l'idée de Louis de Broglie. Alors, il se passe quelque chose de très étonnant à cette époque, c'est qu'on en fait, il y a deux versions qui arrivent presque en même temps de la mécanique quantique. Et il y en a une, bon, c'est celle qu'on fête cette année. Hein, c'est la version de Heisenberg, ce qu'on a appelé la mécanique des matrices, qui n'a pas du tout utilisé les idées de Louis de Broglie et qui part vraiment qui sort vraiment plutôt de l'école de Bohr-Sommerfeld, de l'école de Copenhague et du type de théorie quantique c'était une manière de résoudre les difficultés qui étaient apparues dans cette conception. Donc on a une première découverte de la mécanique quantique, puis après on a Schrödinger qui lui le fait, mais cette fois-ci à partir donc on a une double découverte et on va se rendre compte très vite que les deux théories sont au moins formellement équivalentes. C'est quelque chose tout à fait unique dans l'histoire et donc on a une double découverte mais l'aspect évidemment ondulatoire de la matière est beaucoup plus évident et apparaît dès le départ dans la conception de Louis de Broglie, ce qui était au moins du point de vue de Louis de Broglie un avantage, une meilleure compréhension des phénomènes du point de vue de Louis de Broglie et de ses proches.
Et puis très rapidement aussi, Alain Le Ril, on a une preuve expérimentale entre 1923 et 1927.
Oui, alors l'épreuve, on en a parlé tout à l'heure avec la diffraction, on peut peut-être expliciter un petit peu ce qu'est la diffraction. Tout le monde a déjà regardé un réverbère la nuit à travers sa fenêtre, et dans le cas où on observe ce réverbère à travers un voilage assez fin, on voit des petites taches lumineuses qui forment une croix. Eh bien ça, c'est la diffraction de la lumière à travers la maille du rideau très très fin. Il s'agit donc de diffraction de la lumière. Eh bien de la même façon, de façon analogue, on peut faire de la diffraction des rayons X, on l'a déjà expliqué, mais aussi du coup des électrons sur la maille que forment les atomes sur un cristal. C'est ce que vont faire Davison et Germer, qui sont deux Américains qui n'ont absolument pas entendu initialement parler de la thèse de De Broglie, puis George Thomson. Alors si on peut aller un petit peu plus loin, c'est cette confirmation expérimentale dont parlait De Broglie lors de la soutenance de thèse, a lieu très peu de temps après, et puis donnera le prix Nobel à Davison en particulier, à Thomson, George Thomson. Pour la petite histoire, ce qui est amusant, c'est que George Thomson donc reçoit le prix Nobel pour avoir montré expérimentalement la nature ondulatoire de l'électron, et son propre père, G.G. Thomson, avait reçu le prix Nobel pour la nature corpusculaire de l'électron. Donc la dualité onde-corpuscule de l'électron est dans la famille Thomson, véritablement.
Voilà comment les électrons peuvent se comporter comme des ondes. Alors quelle est l'interprétation de la mécanique quantique de Louis de Broglie et quels sont les apports ultérieurs de ce physicien à la physique théorique. Restez à l'écoute. Merci de Prince en direct sur France Culture, car nous parlons d'un prince qui a fait vibrer les atomes, le physicien Louis de Broglie. On en parle avec nos deux invités du jour, Olivier Darigol, historien des sciences au sein de l'unité Sphère, sciences, philosophie, histoire du CNRS, et Alain Leril, professeur de physique en classe préparatoire aux grandes écoles au lycée Saint-Louis. On vient de voir que les réflexions de Louis de Broglie sont devenues dès 1923 une sorte de point de convergence entre les grandes questions qui taraudent les physiciens de l'époque, que sa thèse en 1924 et ses idées permettront ensuite à Schrödinger de développer la mécanique ondulatoire, et que, enfin 1927, les fondements de la physique quantique, tels qu'on l'enseigne aujourd'hui, sont posés. En 1927 aussi, il y a ce fameux congrès de la physique, le congrès Solvay. Louis de Broglie présente sa théorie de l'onde pilote, Alain Leril. Et on va voir comment, en effet, à ce moment-là, s'exprime sa vision et son interprétation de la mécanique quantique.
Oui, alors en 1927, donc en fin octobre 1927, a lieu le 5e Conseil Solvay, et qui va être quelque part un point de bascule dans l'histoire de la mécanique quantique. Les choses se fixent après 2-3 ans de controverses, et il se trouve que autour de Niels Bohr, plein de jeunes physiciens ont une vision qui fait la part belle à l'aléatoire dans la théorie, et qui est prête à cette théorie à laisser tomber complètement une vision réaliste de la physique. Alors il se trouve que il y a quand même des opposants à cette vision non réaliste, Einstein en premier, et puis Schrödinger, et Louis de Broglie. Donc Louis de Broglie propose une vision qui reste un peu réaliste et qui s'appelle la théorie de l'onde pilote. Cette théorie de l'onde pilote, Louis de Broglie n'en est pas totalement convaincu parce qu'il aimerait avoir mieux. Ça s'appelle la théorie de la double solution, mais elle n'est pas au point en 1927. Donc il propose une version atténuée qui est l'onde pilote et qui dit sensiblement la chose suivante, c'est que l'électron, par exemple, est à la fois une onde et une particule, comme dans sa thèse, et que l'onde elle-même, comme des vagues sur la mer, va guider la particule qui est l'électron, et l'électron va préférentiellement se retrouver dans les zones où il y a plus d'ondes, ce qui est en accord total avec l'autre vision de la mécanique quantique, et qui va triompher à ce moment-là, qui est la vision qu'on appelle rapidement l'interprétation de Copenhague.
L'interprétation de Copenhague, en effet, qui est donc défendue par Bohr, Heisenberg, et qui est donc purement probabiliste. Olivier Darigol, pourquoi dit-on, déjà pourquoi la théorie de l'onde pilote est-elle suspecte, et pourquoi dit-on, en France particulièrement, on reproche souvent quand même à Louis de Broglie d'avoir porté préjudice à la recherche en physique quantique, malgré ses débuts fulgurants?
Oui, alors la théorie de l'onde pilote, il faut remarquer que à l'époque, enfin comme mon collègue vient de me souligner, on a eu une période de crise avant 1927. Il y a eu beaucoup de débats, de controverses, disant comment interpréter cette nouvelle théorie. Alors il y a des gens qui mettent en avant le point de vue corpusculaire, d'autres comme Schrödinger qui mettent en avant le point de vue ondulatoire. Et en fait, quand Schrödinger a utilisé les travaux de Louis de Broglie, il a gommé l'aspect corpusculaire que lui, Louis de Broglie, voulait garder. Il voulait avoir les ondes et les corpuscules. Il voulait avoir une image de la réalité qui est les deux. Et comme c'est le cas dans l'onde pilote, on a bien les deux aspects qui sont conjugués. Alors, lors du congrès Solvay, on voit qu'il y a eu des débats et qui ont convaincu au bout du compte Louis de Broglie, enfin, d'abandonner en fait. Il a pendant longtemps son projet, enfin ses projets aussi bien l'onde pilote que la double solution. Et en fait, il va faire donc de la physique, en suivant l'interprétation, sans l'aimer beaucoup, certes, ça n'allait pas dans ses préférences philosophiques, mais
grande réticence en effet.
Il a laissé tomber, disons, son grand projet pendant longtemps. Il va y revenir que beaucoup plus tard. Je pense à l'occasion de la théorie de Bohm, en fait, qui démontrait que, en fait, toutes les critiques qui avaient été faites, en particulier les critiques de Wolfgang Pauli, hein, qui était le critique le plus, qui a performé les critiques les plus précises et les plus violentes, même, on peut dire, à ce type de théorie, ben, on pouvait y répondre et qu'en fait, on pouvait avoir une théorie d'onde pilote tout à fait cohérente et qui ait les mêmes prédictions que la mécanique quantique ordinaire. Donc, on se rendait compte que cette théorie était de toute façon réhabilitée, ça devenait une possibilité. Après, on l'aime ou on ne l'aime pas, mais c'est quelque chose de possible et c'est philosophiquement très intéressant de savoir en fait que pour le même, tout le même classe de phénomènes, on a deux théories qui donnent des prédictions tout à fait identiques, qui sont pourtant fondées sur des images du monde ou une conception philosophique très différente.
La théorie, en effet, de Bohm, hein, David Bohm, ce physicien, ressuscite les idées de Louis de Broglie dans les années 50. Cette théorie de l'onde est donc redécouverte plus tard. Alain Leril.
Oui, alors David Bohm est un élève d'Oppenheimer et il est en 1951 à Princeton et c'est un ami d'Einstein qui se trouve être à Princeton aussi à la même époque. Et quand David Bohm dit à Einstein, j'ai trouvé quelque chose, c'est assez étonnant, on pourrait préserver le caractère un peu réaliste de la matière en voyant des particules qui se propagent, qui se déplacent le long de trajectoires. Einstein regarde tout ça et lui dit « Ah, mais ça, je connais très bien, c'est Louis de Broglie qui l'a proposé il y a 25 ans. » Donc, David Bohm envoie une lettre à de Broglie qu'on trouve encore à l'Institut de France, hein, dans les cartons de Louis de Broglie. Et de Broglie certainement répond à David Bohm qui va développer très fortement la théorie, va reprendre ses idées de Broglie, même s'il ne les présente pas exactement de la même façon. Et comme le disait Olivier Darigol, il va répondre à toutes à tous les gens, en particulier à Pauli, qui s'opposaient à cette théorie de l'onde pilote.
C'est ça, qu'en 1957, Bohm propose une expérience pour tester le paradoxe EPR, le fameux paradoxe, hein, une expérience de pensée, hein, qui est après EPR pour Einstein, Podolsky, Rosen. Et ça, ensuite, par la suite, on voit le théorème établi en 64 par le Britannique John Bell. Enfin, tout ça, il y a la suite ensuite des expérimentations qui viennent derrière, Alain Leril.
Oui, alors, bon, pour revenir, si on a deux minutes sur ce paradoxe EPR, il s'agit... de parler d'intrication. Alors, je vais dire rapidement, imaginons que donc deux particules soient créées à Paris, l'une qui part très loin vers l'est, l'autre vers l'ouest, et que la première, donc, une fois arrivée à Strasbourg, fasse subir des expériences. Eh bien, il se trouve que les résultats des expériences à Strasbourg seront corrélés, seront, on va dire, les mêmes que sur l'autre particule qui se trouverait, par exemple, à Brest. Et ça, très étonnant, c'est prévu par la théorie quantique, et donc Einstein, en supposant avec Podolsky et Rosen que ce qui se passe à Strasbourg ne doit pas influer sur ce qui se passe à Brest, dit il doit y avoir quelque chose à côté duquel on est passé, une variable cachée qui serait créée depuis le début, qu'on n'a pas vu, donc la théorie quantique n'est pas complète. Voilà, et ça aboutit avec la formalisation de l'expérience par Bohm en 1957 à ces expériences réalisées par Clauser dans les années 70 et puis Alain Speight dans les années 80 qui montrent que la théorie quantique a raison et donc il n'existe pas de théorie à variable caché local.
Voilà comment Alain Speight a donné tort à Einstein. On vous invite d'ailleurs à tout comprendre, à tout découvrir de ces expériences fondatrices en 1980 et 1982 dans notre podcast L'intricant Monsieur Speight. Les travaux de Louis de Broglie sont purement théoriques, mais ils ont permis le passage à une vraie théorie de la matière microscopique, voire macroscopique. Quelles sont les applications qui découlent des découvertes de Louis de Broglie ? Restez avec nous.
Culture. La science CQFD, Natacha Trioux.
direct sur France Culture avec Alain Le Ril et Olivier Darigol. Nous parlons du physicien Louis de Broglie et de sa description de la matière. On vient de voir comment il en était arrivé à prouver qu'une particule peut, suivant les circonstances, se comporter soit comme une particule, soit comme une onde. Le caractère ondulatoire de la matière, mis en évidence par de Broglie, n'est pas seulement une formidable découverte théorique. Elle est aussi aujourd'hui très utile pour créer un très grand nombre d'instruments. C'est le cas par exemple du microscope électronique à balayage, très utilisé pour faire de la biologie ou en sciences des matériaux. Et c'est aussi le cas du gravimètre à atomes froids qui permet de mesurer localement la gravité avec une précision inégalée. Jusqu'ici, c'est ce que l'on veut entendre pour notre reportage du jour et c'est avec vous Loïc Dutoit. Bonjour.
Bonjour Natacha.
Vous êtes rendu au Laboratoire National de Métrologie et d'Essais à Trappes où se trouve un de ces gravimètres à atomes froids.
Oui, et dans l'enceinte de ce petit cylindre blanc que j'avais devant les yeux, on fait tomber des atomes de rubidium en chute libre. Commence alors une course entre les atomes jusqu'à la ligne d'arrivée 15 cm plus bas. Alors, si on ne faisait rien, ils arriveraient tous en même temps. Mais là, on excite et désexcite ces atomes par des petites impulsions laser, ce qui les accélère ou les freine. Après la ligne d'arrivée, on compte combien d'entre eux sont excités. Et de cette information, on peut calculer la différence de phase entre les ondes. Et de cette différence de phase, on peut calculer avec une très grande précision la gravité, qu'on appelle aussi petit g. C'est donc bien le caractère ondulatoire des atomes mis en évidence par de Broglie qui permet d'arriver à une mesure si précise de la gravité. C'est ce que m'a raconté Sébastien Merlet, chercheur au laboratoire Temps et Espace à l'Observatoire de Paris.
Donc là, sur la photo, on voit le gravimètre atomique qu'on a construit au LTE, à l'Observatoire de Paris, qui est la référence en gravimétrie en France. Là, on voit les blindages sont ouverts pour qu'on voit l'enceinte à vide. On ne pourrait pas refroidir les atomes dans l'air ambiant. Il y a trop de particules et par effet collisionnel, on n'arriverait pas à les refroidir. Donc là, on fait en sorte, on va dire qu'il n'y a rien. On casse une cellule qu'on chauffe de rubidium et dedans, on va avoir une vapeur de rubidium. Les atomes sont refroidis dans cette boule et on descend à moins de 2 microkelvin.
On va tout simplement ouvrir ensuite une trappe en dessous, ça se passe comme
non.
Ça ou c'est plus...
Il n'y a pas de trappe, tout ça c'est la même enceinte à vide. C'est juste que les atomes sont piégés que à l'intersection des 6 faisceaux laser et du champ magnétique. Donc là il y a une force qui les retient. Si je coupe les faisceaux laser et le champ magnétique, il n'y a plus de force, ils tombent en chute libre. Pendant qu'ils tombent, dans la même enceinte, il y a un faisceau laser vertical qui est exactement aligné sur leur trajectoire. Et ce faisceau laser va nous permettre de faire la fonction séparatrice atomique et miroir atomique. Donc il y a une partie des atomes, 50% des atomes qui sont un peu poussés. Ils continuent de tomber en ligne droite, si ce n'est qu'on leur a donné une petite vitesse qui font qu'ils ne sont plus complètement en chute libre. Mais il y a 50% des atomes qui font ça et 50% qui continuent sur la trajectoire initiale. C'est pour ça que c'est une séparatrice. On a séparé en deux trajectoires différentes et au moment où on fait le miroir, on va inverser le processus. C'est-à-dire que tous ceux qu'on avait accélérés, on va les décélérer. Ceux qui étaient dans l'état qui n'avaient pas été accélérés, eux, on va les accélérer. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps identique encore d'évolution libre, ils vont se retrouver au même endroit. Et au moment où ils se recombinent, qu'ils sont au même endroit, on refait une troisième impulsion, tout simplement pour les mélanger. 1 cm en dessous, on va compter les atomes dans les deux voies de sortie possibles. C'est-à-dire qu'il y a eu deux chemins. Le chemin qu'on appelle, par exemple, le chemin A, où les atomes initialement ont été accélérés, et le chemin B, où les atomes n'ont pas été accélérés. Ça fait deux trajectoires différentes qui, à la fin, sont recombinées. Mais il y a deux sorties. Et quand on compte les atomes, on ne sait pas s'ils sont passés par le chemin A ou le chemin B. D'où interférence. Et pendant ce phénomène, la phase du laser est imprimée sur le paquet d'ondes atomiques. Grâce à cette phase imprimée, on arrive à mesurer, en sortie d'interféromètre, la gravité, en comptant le nombre d'atomes juste en dessous de l'interféromètre. Donc, si on veut se représenter, entre la zone de piégeage, la source, et l'interféromètre et la détection, il y a 15 cm. L'enceinte à vide est petite, ce qui est pratique à déplacer. Et donc, toute cette technologie a été transférée à une société qui, maintenant, fabrique des instruments commerciaux avec une seule fibre, grâce à des astuces pour simplifier les fonctionnalités.
Cet instrument dont vous parlez, c'est celui qu'on a juste derrière nous.
Exactement, c'est l'instrument qu'on voit derrière nous. C'est un cylindre, pareil, on dirait une poubelle.
C'est vrai qu'on dirait une grande poubelle blanche.
C'est un diamètre de 50 cm sur, on va dire, 1 mètre de haut.
Et là, vous me disiez que ça mesurait en continu. Est-ce que vous les avez en sortie quelque part, les mesures ?
Oui, oui. Ben, on peut aller voir l'écran. Donc la valeur est indiquée ici. Où se trouve l'instrument ? J'ai vos 9.808, 912, 246 nanomètres par seconde carré. C'est 9 chiffres après la virgule, sachant que ça change en 6 heures, vu qu'on en est dans les 10-10, de 3000 en 6 heures à cause de notre position par rapport à la Lune et le Soleil. La pression atmosphérique fait changer la gravité. Un nuage qui passe fait changer la gravité.
À ce degré de précision-là.
Exactement, à ce niveau de sensibilité qui est possible grâce à l'interférométrie atomique.
Quel intérêt ça a d'aller à différents endroits sur Terre et de mesurer très très précisément la gravité à cet endroit-là.
Les géophysiciens utilisent beaucoup de gravimètres parce qu'avec ce genre d'instrument, on a une idée de ce qu'il y a sous le sol. C'est une manière non destructive de faire une mesure. Vu que G dépend des masses environnantes, si vous faites par exemple la gravité à l'échelle d'un champ, si G, vous observez votre cartographie est un peu différent, vous pouvez vous dire, là il y a une absence de masse, donc c'est une cavité par exemple, si vous cherchez un tunnel, ou un excès de masse, et qu'est-ce qui est plus dense que la Terre ? Ça peut être du pétrole, de l'or, des diamants, que sais-je. Mais c'est pour analyser ce qu'il y a dans le sol. Et donc une équipe de l'IPGP est partie en Guadeloupe faire des mesures avec l'instrument. Et grâce à ça, ils ont pu faire des mesures sur le volcan en Guadeloupe. Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Ils cherchent à voir les variations de gravité. Les variations de gravité pourraient être liées soit à une montée de lave, ou un affaissement du sol, parce que justement une éruption est imminente.
Il y a d'autres applications.
Si on peut faire la cartographie des fonds marins, basée sur des cartes de gravité, on peut naviguer. La navigation aujourd'hui est faite par du GNSS, on regarde avec les centrales inertielles notre position, on refait le point. Mais imaginez un sous-marin qui ne veut pas remonter à la surface pour faire le point, pour recaler sa centrale inertielle. En solution de repli, si jamais sa centrale inertielle ne marche pas, il pourrait mesurer le fond des mers. C'est comme marcher les yeux fermés tout en ayant une information pour se suivre sur la carte.
Est-ce que vous diriez qu'un instrument de mesure comme ça, ça aurait été totalement impossible sans les travaux de Louis de Broglie et pourquoi c'est le cas aussi ?
Tout ça, c'est lié aux connaissances en mécanique quantique. Et donc la dualité onde-corpuscule révélée par les travaux de Broglie sont à la base. Je ne peux pas dire que sans ces travaux, on ne l'aurait pas fait. Quelqu'un d'autre l'aurait peut-être trouvé plus tard. Mais effectivement, c'est une pierre fondamentale dans toutes ces théories qui ont amené à des développements et aujourd'hui même à des cas de commercialisation d'instruments.
Merci Loïc Dutoit pour ce reportage. On avait là donc un bel exemple d'une application, le gravimètre à atomes froids. Olivier Darigol, quelles ont été les autres applications directes des travaux de Louis de Broglie, cette pierre fondamentale à la physique ?
Oui, alors là on a eu effectivement des exemples absolument impressionnants et magnifiques de physique qui dépend de la nature ondulatoire de la matière et qui les montre assez directement, mais on peut dire par ailleurs de manière générale, en fait, toutes les applications de la mécanique quantique, et elles sont très nombreuses, elles sont dans tous les dispositifs techniques du quotidien, tout ce qui par exemple peut intervenir le comportement des semi-conducteurs, des circuits intégrés, toute l'électronique, etc. Tout ça, ça fait appel de la physique quantique. Donc, la physique quantique, elle est pratiquement partout autour de nous. Une partie intégrante de la physique quantique, c'est l'aspect ondulatoire de la matière. Alors, évidemment, comme le disait mon collègue physicien, en fait, on ne peut pas dire évidemment que tout ça ne se serait pas passé sans Louis de Broglie. On aurait quand même eu une mécanique quantique, une personne en histoire des sciences, jamais personne, mais vraiment indispensable. Mais en l'occurrence, c'est Louis de Broglie qui, le premier, a vu cet aspect ondulatoire de la matière et qui apparaît non seulement dans la physique fondamentale, mais aujourd'hui dans de nombreuses techniques, c'est vrai.
Alain Le Ril, justement, sur les applications directes des théorèmes et de cette brique fondamentale des travaux de Louis de Broglie.
Alors, vous y avez fait référence, Natacha, tout à l'heure. Il y a le microscope électronique en particulier. Donc, dès le début des années 30, on utilise plutôt que des photons, plutôt que de la lumière, on utilise des faisceaux d'électrons. Et ces faisceaux d'électrons peuvent avoir des longueurs d'onde bien plus petites que celles de la lumière qu'on peut naturellement générer. Et puisque ces longueurs d'onde sont plus petites, eh bien, la résolution de l'appareil est bien meilleure, 1000 fois meilleure que dans le cas d'un microscope optique. Ce qui permet en particulier de découvrir des choses en biologie qui ont été fondamentales pour le développement de la médecine.
C'est ça, le microscope électronique, comme vous dites, a pu grossir les objets jusqu'à 2 millions de fois. C'est donc 1000 fois plus que les microscopes optiques traditionnels. Et puis de la mécanique quantique, comme vous le disiez à l'instant, Olivier Darigolle, on en a partout, tout ce qu'il y a autour de nous, toutes les grandes avancées électroniques, puis aussi tout ce qui nous permet de mieux contrôler les interactions entre lumière et matière, les lasers, les communications optiques. On arrive vers la fin de ce portrait, de ce personnage historique, très rapidement, Olivier Darigolle. Selon vous, en quoi justement la démarche scientifique de Louis de Broglie était très particulière ?
Elle est extrêmement audacieuse et c'est une découverte. Il faut voir que tous les gens qui travaillaient sur la musique quantique à l'époque, ou presque, ils travaillaient en équipe. Et autour de Copenhague, autour de Munich, autour de Sommerfeld à Munich, ou à Göttingen, autour de Max Born. Et en France, on a un théoricien, certes, il est dans un laboratoire, il est entouré quand même, mais ses réflexions théoriques sont très individuelles. Donc c'est quelqu'un, un physicien qui a un intérêt singulier pour les questions profondes, philosophiques, et qui a une audace intellectuelle qui est très, très exceptionnelle, et il a fait cette grande découverte d'une façon qui est assez insolite dans l'histoire des sciences de l'époque, il faut bien le reconnaître. Donc c'est sa force d'admiration, évidemment, de voir la manière dont il a pu aboutir pratiquement dans des réflexions qu'il conduit presque tout seul. Il a été presque plus audacieux qu'Einstein, en fait, dans cette introduction de la dualité, dans cette généralisation de la dualité en deux corpuscules.
Puis Louis de Broglie a aussi beaucoup participé à la diffusion de la physique quantique par le biais d'ouvrages de vulgarisation comme Matière et Lumière, paru chez Albin Michel en 1937. Dans quelques secondes, on retrouve la chronique d'Alexandre Morales, mais pour prolonger l'écoute, j'invite nos auditeurs à se procurer votre roman à la relire L'onde et la particule, le cas Louis D.B., paru en 2023 aux éditions Complicité. Très rapidement, c'est un bon personnage de fiction, Louis de Broglie.
Ah, il est fascinant, oui. Et puis, dans la mesure où on a du mal à le comprendre, parce qu'il est très spécial, ça se prêtait bien à une réinvention du personnage de façon romanesque.
Et puis, il y a cette approche poétique de la physique aussi qu'on a pu découvrir également dans ces textes, qu'on retrouve également dans le vôtre.
C'est très gentil.
Je vous en prie, merci beaucoup. Merci à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Tout de suite, on change complètement de sujet avec une découverte paléontologique vieille de près de 14 000 ans. C'est la chronique avec science.
De quand datent les plus anciennes représentations de paysages connues ? Du paléolithique supérieur, on connaît bien les grandes fresques murales comme celle de la grotte de Lascaux ou celle de la grotte Chauvet. Mais durant cette période qui va d'environ 45 000 à 12 000 ans avant notre ère, on a peu de représentations de paysages. D'ailleurs, les animaux représentés dans ces grottes n'ont généralement pas les pattes posées sur le sol. Alors, on a découvert des tablettes sur lesquelles des gravures ont été interprétées comme une vue surplombante d'un camp. D'autres chercheurs ont découvert ce qui pourrait représenter un plan de chasse avec une montagne et le lit d'une rivière à ses pieds, mais c'est à peu près tout ce que l'on connaissait jusqu'à présent. On en vient donc à cette découverte publiée dans l'Oxford Journal of Archaeology de la maquette en relief d'un paysage. Cette miniature a été modelée dans le sol de l'abri sous roche de Ségognol III à Noisy-sur-École en Seine-et-Marne. Un site archéologique connu depuis les années 80 pour ses gravures paléolithiques qui représentent des chevaux et aussi une figuration sexuelle féminine. Et ce sont ces gravures de chevaux qui ont permis de dater l'occupation de la grotte, puisque leur style se rapproche d'autres chevaux qu'on peut observer à Lascaux et qui remontent à 13 ou 14 000 ans. Médard Thierry a été chercheur au Centre de géosciences des mines Paris PSL. Il est aujourd'hui retraité, mais poursuit une activité de recherche et d'ailleurs il est co-auteur de cette publication.
L'originalité de cette étude, ou ce qui a amené un regard complètement nouveau sur ces cavités du Paléolithique, ces trois cavités, c'est qu'en fait, c'est un regard croisé entre les archéologues, les géologues et les géomorphologues. Et les archéologues, généralement, dès qu'on est dans le rupestre, ils délimitent quelque chose qui est le panneau, qui fait qu'on ne regarde pas ce qui est autour. C'est pas qu'on veut pas le regarder, mais on focalise sur l'objet. Et autour, quand on est archéologue, on n'a pas eu la formation très souvent pour regarder les roches, comprendre les roches, leur formation, leur morphologie. Et donc, le regard s'est ouvert sur l'ensemble de l'abri et c'est un regard qui était d'analyser toutes les parois, regarder comment elles s'altéraient, tout ça. Et c'est sur cela qu'en fait est arrivée une lecture différente. On s'aperçoit que c'est pas naturel.
Cette approche pluridisciplinaire se développe de plus en plus et s'avère très révélatrice. Dans la nature, les fissures se recoupent, les roches s'érodent et se lissent sous l'effet de l'écoulement de l'eau, tandis qu'ici, les scientifiques ont montré que les pierres ont été brisées et que des sillons ont été tracés sur le sol de la cavité. Alors qu'est-ce que ces peuples préhistoriques ont-ils voulu représenter ? Eh bien, pour le comprendre, il faut suivre le réseau de sillons qui zigzaguent entre les éléments de relief. Ils se rejoignent par endroits à la manière de confluents, suivant toujours la pente naturelle du plancher de la caverne et aboutissent à un petit bassin en se divisant un peu comme un delta fluvial. Une comparaison tout à propos puisque les chercheurs se sont rendus compte que les reliefs dans lesquels court le réseau hydraulique correspondent assez précisément à la topographie de la région. Il s'agirait donc d'une reproduction des environs, une véritable maquette. Et le plus impressionnant, c'est que cette maquette est fonctionnelle. Les sillons remontent jusqu'à l'entrée de la grotte et guident l'eau en temps de pluie. On peut donc voir l'eau s'écouler comme une rivière entre les plateaux et au fond des vallées.
Il y avait au départ sûrement un gars dans la communauté qui s'est rendu compte que quand il pleuvait, il y avait de l'eau qui s'écoulait de façon diffuse et anarchique autour d'éléments de relief du plancher et qu'il y a eu l'intuition, cette espèce d'excès de vitesse de l'intelligence à un moment donné qui fait que « Ah, mais ça ressemble tout à fait à ce qu'on voit autour de nous ». Voilà. Et qu'à partir de là, je pense, ils ont effectivement gravé très soigneusement après tout ce réseau de confluence et tout ça, qui était un travail là beaucoup plus abstrait, mais bien aligné sur ce qui existait. C'est pas complètement en dehors de l'esprit paléolithique. Par exemple, un dessin de mammouth est situé sur un endroit où on a un petit relief qui évoque déjà la cuisse et le dos du mammouth et on le complète. Et très souvent, ils ont fait ça, diriger des animaux vers une fente ou des choses comme ça, qui sont comme une espèce de précaution ou de respect de la roche. On touche le moins possible à la roche, on la modifie le moins possible, mais on s'en sert.
C'est la première fois qu'une telle représentation dynamique paléolithique est mise au jour, témoignage d'une forme d'ingénierie peut-être. Alors à quoi pouvait bien servir cette maquette fonctionnelle ? Eh bien c'est difficile à dire, peut-être était-elle utilisée pour établir des plans de chasse ou à des visées pédagogiques. Elle pourrait aussi bien avoir eu une signification mystique, mais ce mystère ne sera sans doute jamais levé.
Merci Alexandre pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Ève Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Noémie Eliazor, Bruno Sonsini, Loïc Dutoit, Ali Ruyère-Thompson. À la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui d'Ali Yaha. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.